Bonjour, alors je me présente donc Florence Troin. Roman Stanicki, mon collègue et néanmoins ami, est dans la salle. Et donc nous allons faire, à la demande de Laurence, un retour d'expérience sur les cahiers des mâmes, donc qui sont mis en ligne sur une des plateformes dont on vient de parler et qui s'appelle donc les revues, la revue.org. Alors, en introduction, je dois vous dire que, d'ailleurs, Roman avait descendu des exemplaires, mais on peut les faire circuler éventuellement. Donc, les Cahiers des Mâmes, c'est une revue éditée par l'équipe EMAM, donc EMAM signifiant Monde Arabe et Méditerranée, qui est une équipe rattachée à l'UMR Citer et qui dépend elle-même, comme 26 300 autres équipes, de la MSH de Tours. Donc les cahiers des mâmes existent depuis 2008, mais ils ne sont en ligne, je serais tentée de dire, que depuis 2012, mais c'est déjà pas mal. Donc les thématiques des cahiers, ces cahiers donc portent sur les questions urbaines, sur les constructions, reconfigurations territoriales dans leur dimension historique, spatiale, économique et politique, bien sûr sur l'ère qui nous intéresse, à savoir le monde arabe et la Méditerranée. Donc, les cahiers des mâmes ont bien évidemment un comité de rédaction dont nous faisons partie, Roman et moi, c'est pour ça que nous sommes ici, et un comité scientifique. Et je précise que les coordinateurs des numéros appartiennent à l'équipe, mais pas seulement, donc on va en reparler. Alors, très rapidement, pour effectivement vous ayez un petit peu une idée du poids, on va dire, de la taille de ces cahiers des mâmes, ce petit tableau, qui donne donc le nombre d'articles publiés depuis 2008, donc ils sont très exactement égaux à 75. On remarquera qu'il y a un numéro bilingue, donc si on compte les articles qui ont été publiés à la fois en français et en espagnol, on arrive à 84. Nous publions aussi dans ces cahiers des résumés de thèses, donc qui sont au nombre de 33, et depuis le cahier numéro 22, des comptes rendus d'ouvrages. Donc voilà, pour vous donner un petit peu la taille des cahiers. Ces cahiers, leur origine provient de travaux de recherche qui ont constitué donc soit des séminaires, soit des ateliers débats, soit des journées d'études, pour vous dire que effectivement l'origine de ces cahiers est assez variée, soit un projet de recherche sur 3 ans. Juste une petite indication, mais en fait j'ai essayé d'étudier ce qui dit pas grand chose, c'est-à-dire la différence entre le moment où se tient le séminaire et la mise en ligne du cahier. Et en fait on a, comme vous pouvez le constater, aucune régularité. Mais peu importe, l'essentiel c'est que ça soit mis en ligne. Voilà, donc je vais être obligée de faire un très rapide historique, hein, pour vous resituer ces cahiers des mâmes dans leur contexte. Et puis donc bien évidemment passer aux avantages et aux inconvénients d'une mise en ligne d'une revue sur revue.org, sachant que les avantages, ils seront très nombreux, et que les inconvénients, je ne vais pas dire que je les cherche encore, mais en fait, il y en a très très peu. Alors, ceci dit, et puisque je prends la parole à la suite de mes collègues, je dois dire quand même que nous ne sommes pas du tout, à votre différence, des professionnels de l'édition. Donc Roman est maître de conférence en géographie, je suis moi-même géographe cartographe, mais vous le savez, dans les laboratoires, en fait, pour que ça fonctionne, on fait un petit peu tout. Mais je pense que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer comment l'outil qui va nous permettre de mettre en ligne ces cahiers des mâmes est en fait accessible à tous. Il nécessite une petite formation, certes, mais justement, et sans vouloir faire, vous m'arrêtez si c'est le cas, trop de publicité pour revue.org, véritablement, pour nous, ce fut une grande découverte dont on se satisfait encore tous les jours. Alors, le rapide historique, un petit peu d'archéologie. Donc, nous revenons au XXe siècle avec sa première période et donc les cahiers d'Urbama qui sont les ancêtres des cahiers des mâmes, puisqu'en fait, je vais le redire très vite après, EMAM est une émanation d'un labo de recherche qui a été créé dans les années 70, ça c'est vraiment de l'archéologie. Et donc, les cahiers des mâmes d'Urbama, pardon, existe depuis 1988 avec, vous le voyez, une richesse dans le choix des couvertures. Au bout d'un moment quand même, effectivement, On reste sur le thème cartographique, mais on change de couverture. Et là, on fait un grand plongeon dans l'inconnu. Effectivement, les cahiers d'Urbama changent de couverture à chaque numéro. Donc l'unité associée devient unité mixte de recherche, donc une des trois qui compte véritablement dans le panorama des laboratoires sur le monde arabe en France. Et je dois dire également que ces cahiers d'Urbama, qui sont une revue, en nombre de pages moins importantes que les fascicules de recherche qui existent aussi, donc font partie d'un tout, donc de trois collections qui sont éditées par Urbama. Tout ça pour vous dire qu'en fait l'édition comptait à cette époque-là dans les activités du laboratoire de recherche. Et puis il arrive ce qui devait arriver sûrement, c'est-à-dire qu'entre les années 2000, donc la parution du dernier cahier d'Urbama, je précise, et 2011, donc la parution des nouveaux cahiers d'EMAM cette fois-ci, eh bien, il y a une reconfiguration relativement, totale, qui fait que, comme vous le voyez, l'équipe met un certain temps à se relever et à se dire, eh bien, nous allons enfin, puisque maintenant nous sommes restructurés, donc nous sommes passés d'une unité mixte de recherche à une équipe à l'intérieur d'une unité mixte de recherche, donc la donne est évidemment très différente, et il a fallu que 10 ans se passent pour que la décision soit prise, donc de repartir sur une politique d'édition, ce qui a correspondu très exactement au moment où nous avons décidé de mettre les cahiers d'EMAM en ligne, donc sur revue.org. Donc vous avez très discrètement un petit stage Lodel qui se balade par ici, puisque pour mettre en ligne sur n'importe quelle plateforme, il faut en passer par un petit peu de technique, et en l'occurrence ici par l'apprentissage d'un logiciel qui s'appelle donc Lodel. Donc la politique d'édition redémarre de plus belle. Donc en 2008, 2009, 2010, 2011, voilà les nouveaux cahiers d'EMAM auxquels succèdent les cahiers, ça va venir je pense, sur une deuxième période, les cahiers 20, 21, 22, 23, donc on est ici en 2014, et puis nouvelle révolution extraordinaire, alors en 2015, nous changeons de maquette et nous publions trois cahiers sur la même année, ce qui représente un petit peu de travail, on va dire. Donc voilà pour l'historique, mais je pense qu'il était important pour dire qu'effectivement, les cahiers d'EMAM ne viennent pas de nulle part, et que d'ailleurs, quand on fait une procédure d'inscription sur revue.org, il faut prouver effectivement qu'on va pas commencer une édition d'une revue, mais qu'on a derrière soi déjà un certain passé, ce qui va donner de la crédibilité évidemment à la revue en ligne, puisque la procédure d'inscription sur revue.org passe quand même par un espèce de sas, et effectivement toutes les revues ne peuvent pas être publiées sur revue.org. Donc la mise en ligne démarre, donc ici un petit tableau qui vous donne le nombre de cahiers, donc par année, avec, vous le voyez, une mise en ligne rétroactive, c'est-à-dire qu'en 2012, non seulement on publie, mais on met en ligne, oui, d'une façon rétroactive, les 4 cahiers qui viennent déjà de paraître, donc on en est à 11, voilà, sur cette fameuse plateforme revue.org. Donc Anne et Anne-Françoise, c'est ça, tout à l'heure, j'ai bien noté que vous en étiez, vous avez dû faire votre PowerPoint après moi, à 423 revues, et donc il m'en manque une. Alors nous ne sommes pas à la 422e, puisqu'effectivement nous avons fait la procédure d'inscription il y a quelques années. Donc revue.org, c'est une plateforme, en open édition, fondée en 99, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est de la diffusion en accès libre, selon, on en a parlé aussi, différents modèles de politique d'édition électronique. Revue.org fait partie justement d'open édition. Open édition, c'est non seulement ces revues, mais aussi des événements qui sont enregistrés sur Calenda. Alors vous avez les dates de création de chaque plateforme, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est aussi, et ça J'imagine que vous avez déjà eu l'expérience de ces fameux carnets de recherche publiés sur Hypothèse. Alors, ils sont 1467, ils sont de plus en plus nombreux et je crois qu'ils ont énormément de succès. Et Open Edition, c'est aussi Open Edition Books. Mais je ne suis pas là pour faire la pub pour le Cléo étant la structure qui permet l'édition de toutes ces revues, ces événements, ces carnets de recherche. Mais je dois quand même insister sur le fait que c'est une initiative publique et je pense que c'est important de le dire, à but non lucratif. Et vous avez donc les institutions de rattachement sous forme de logo. Alors comment ça se présente ? C'est pas forcément très très clair, mais ça n'a pas d'importance parce qu'on va pas lire précisément aujourd'hui. Mais voilà donc la page d'accueil des cahiers des MAM, donc depuis 2012, avec un descriptif rapide de la revue hein, qui revient systématiquement. Le dernier numéro en ligne apparaît évidemment en tête de gondole, on va dire, la liste de tous les numéros disponibles sur le côté. Chose très importante pour nous, des index ici. Et puis, justement, le détail des comités de rédaction et scientifiques, la sélection, comment peut-on faire pour être sélectionné, pour pouvoir publier, quelles sont les consignes de rédaction. Et dans le détail, ici, pour le dernier numéro, la liste des articles, un petit peu grossie ici, et puis la liste des résumés de thèse et des comptes rendus dont je vous ai déjà parlé. Alors, on en vient véritablement ce qui nous a apparu comme étant des avantages d'une publication en ligne. Hein, donc, je le redis, on n'a pas fait non plus une étude de marché, on n'est pas allé très très loin. On s'est un petit peu rué sur revue.org et ma foi, on n'a jamais eu à regretter ce choix. Tout d'abord parce que il nous donne, il faut bien l'admettre, beaucoup plus de visibilité que nos petits cahiers des MAM qui paraissaient sous format papier, qui étaient et qui sont toujours, d'ailleurs, hein, je dois préciser, imprimés à, attention, accrochez-vous, 125 exemplaires. Donc effectivement, avec revue.org, on va quand même un petit peu augmenter la visibilité. Alors revue.org, c'est très gentil de leur part, nous permettent d'étudier des chiffres de fréquentation. Donc des chiffres qui donnent le nombre de visiteurs différents, de visites, etc. Si Anne tout à l'heure avait bien voulu cliquer sur cahier des MAM, on aurait vu notre cours monter en flèche, mais elle l'a pas fait. Et alors c'est important parce que tout ça est lié en fait, plus le nombre de visiteurs augmente, plus le freemium dont on a évoqué rapidement l'existence tout à l'heure peut nous donner un peu plus d'argent pour pouvoir publier. Donc c'est une espèce de chaîne, c'est une boucle sans fin. Alors revue.org nous donne les chiffres, certes ça c'est très gentil, sur les années. Par contre, nous les cartographes, on leur reproche un petit peu d'utiliser ce qu'on appelle une échelle propre, c'est-à-dire que chaque histogramme de chaque année est représenté avec une échelle qui s'arrête à l'année, donc on peut pas les comparer. Donc on est obligé de refaire les graphiques, mais je vous les montrerai plus tard. Revue.org nous donne aussi la consultation selon les jours du mois. Donc là-dessus, je me suis pas tellement étendue. Ça présente pas beaucoup d'intérêt sur les jours de la semaine et on peut s'apercevoir que les chercheurs, les enseignants, les doctorants travaillent le week-end ou du moins font semblant de se connecter sur revue.org. Mais effectivement, la fréquentation chute, mais pas tant que ça. Revue.org nous permet de voir aussi à quelles heures les gens se connectent. Et puis, effectivement, je l'ai pas mis ici. Quelle est la durée? C'est pour répondre un peu à la question de Laurence. Quelle est la durée de consultation? Donc, on a aussi cette donnée-là. Donc voilà, un petit graphique refait. Alors j'ai sélectionné uniquement les visiteurs différents, le nombre de visites et le nombre de pages consultées. Donc depuis 2012, on est passé de 14 000 à 51 000. Donc forcément, on grimpe parce que aussi on met en ligne régulièrement des cahiers. On est passé de 18 000 visites à 79 000 et on est passé de 49 000 pages consultées à 168 000. Donc on poursuit notre progression et on est relativement content. Donc voilà, année par année, découpé selon les mois de l'année, les mêmes chiffres mais représentés sous forme de courbe. Donc ici, en avril 2012, on a commencé avec 1550 visiteurs. On est aujourd'hui à 5139, mais on a même battu notre record en janvier 2016, qui n'est pas représenté ici avec 5600 visiteurs. Et bien sûr, bon, on pourrait rester très longtemps sur cette courbe, mais je dois vous avouer qu'on n'a pas toutes les clés pour la déchiffrer, sachant qu'évidemment, bah, sur les mois d'août et les mois d'été, par contre, ça chute. Alors moi, j'ai une explication. C'est pour ça que Roman ne voulait pas venir à côté de moi. Il avait honte de ma couverture de voici, mais... Bon, voilà, les chercheurs et les doctorants sont des êtres humains. Effectivement, ça chute. Alors, un autre paramètre, évidemment, c'était de voir s'il y avait une corrélation entre ces chiffres et le moment de parution des numéros. Pas forcément. Alors, effectivement, ça monte, hein. Mais vous voyez, pour le numéro 26, ça redescend immédiatement après. Mais il se trouve que, effectivement, le numéro 26, on l'a mis en ligne en juillet. Donc, c'est pas lui qui a fait qu'au mois d'août, on a plus lu les cahiers des MAM que Paris Match. Donc, bon, je rentre pas tout à fait dans les détails parce que, effectivement, nous, ce qui nous importe, c'est de voir que ces chiffres augmentent. Et puis, voilà. Effectivement, on gagne pas grand chose si ce n'est de la notoriété, mais, justement, on va en reparler. Donc, les chiffres de fréquentation nous donnent cette visibilité. De même, bien sûr, nous indiquent un petit peu notre rayonnement à l'échelle internationale. Et on s'aperçoit, chose étonnante, que les Français arrivent en tête, mais suivis de très près par les Américains. Alors, je me suis dit, mais c'est peut-être un épiphénomène. Et puis, vous n'êtes pas sans connaître l'existence de robots qui vont faire des recherches un peu économiques, automatiques, pardon. Néanmoins, on trouve en 3e, 4e, 5e place le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Donc, finalement, on se dit, on n'est pas tout à fait dans le faux. Je suis quand même allé faire des petites extractions d'autres mois pour voir si, effectivement, c'était un peu toujours les mêmes pays qui revenaient. Oui, c'est toujours les mêmes pays. Là, en janvier 2015, on avait pas mal de Japonais, donc ne me demandez pas pourquoi. Voilà, mais c'est juste notre aura internationale qui... On est très contents. Donc, créer la visibilité qui, effectivement, nous confère une certaine notoriété. Alors, cette notoriété, elle se traduit de la façon suivante. Effectivement, on a des demandes de publication qui viennent de plus en plus de personnes qui appartiennent un petit peu moins à notre réseau. Donc, des gens, des demandes extérieures. Alors, soit pour coordonner entièrement un numéro, donc le numéro 26 qui est sorti. Bien, je crois que j'ai sa couverture ici. Il a été coordonné par Saïd Belguidoum, qui est maître de conf à Aix-Marseille, et par Olivier Pliès, qui est directeur de recherche à Holist à Toulouse. Donc, c'est eux qui nous ont demandé de publier chez nous, puisque, voilà, il faut le dire, ils avaient pris conscience que nos cahiers des MAM avaient une certaine notoriété. Et puis, notoriété encore, c'est l'invitation à ce séminaire. Autres avantages, donc après la visibilité, c'est l'accessibilité. Puisque effectivement, nous travaillons principalement sur le monde arabe et méditerranée, il est bien plus aisé pour les chercheurs qui y résident de pouvoir consulter en ligne nos cahiers plutôt que de faire partie des 125 destinataires des exemplaires que nous imprimons sur papier. Donc effectivement, ça nous permet en tout cas de pallier ce faible nombre d'exemplaires. De toute façon, on ne peut pas le faire grossir étant donné le budget que ça représente. On économise effectivement des frais d'affranchissement. On contourne une certaine censure aussi, et nous en avons eu l'expérience il y a très peu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il se passe des choses en Tunisie, par exemple, mais en Égypte aussi. Eh bien, il est pas forcément très conseillé d'envoyer par la poste des cahiers des MAM sous format papier, alors que n'importe quel Égyptien, n'importe quel Tunisien peuvent consulter nos articles sous format électronique. Et donc, ça nous permet également de garder un lien, ce qui n'est pas évident, avec ce réseau qui est disséminé, effectivement, pas dans le monde entier, mais dans une certaine aire géographique. Un avantage, alors là, véritablement, qui nous a posé question, c'est ce que j'ai appelé la normalisation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas véritablement des professionnels de l'édition, et je dois admettre que depuis le début des cahiers des MAM, on avait été pas forcément très rigoureux sur, par exemple, les comités de rédaction et de comités scientifiques. Comme revue.org nous demande de mettre tout ça en ligne, il a fallu se reposer les bonnes questions. De la même façon, nous demandions pas forcément, enfin si des résumés, les mots-clés, on les avait sur les précédentes éditions, les résumés en anglais, les mots-clés en anglais, j'avoue que sur les cahiers d'Urbama, il y a bien longtemps, il n'y en avait aucun. Sur les premiers cahiers des MAM, il n'y en avait pas beaucoup. À partir du moment où on est passé en ligne, je le redis, il a fallu rentrer dans les clous, et je crois que c'était une bonne chose pour nous de normaliser tout ceci, de même que l'invention des notices biographiques, ou effectivement des consignes de rédaction qui sont très claires maintenant et qui nous permettent aussi de gagner du temps puisque les futurs auteurs peuvent évidemment les consulter en ligne. Donc, une normalisation. Enfin, quelque chose qui me tient à cœur, c'est ce que j'ai appelé l'iconographie 2.0. Puisqu'effectivement, avec la mise en ligne, nous allons nous permettre déjà d'utiliser un peu plus la couleur. La couleur, quand on imprime sur papier, elle a encore un coût, ça il faut quand même le dire. En ligne, la couleur ne coûte pas plus cher que du noir et blanc. Donc on va pouvoir multiplier par exemple les cartes, mais surtout, donc c'est pas très très net je crois, mais parce que j'ai... Bref, on va pouvoir effectuer, c'est pas l'objet, hein, on va pas aller travailler ces cartes en particulier, on va pouvoir en tout cas les agrandir, ces cartes. Une première fois et puis une deuxième fois, et si l'on fait un extrait d'une de ces cartes, on va se rendre compte que grâce effectivement à la mise en ligne, on va pouvoir rentrer dans un niveau de détail, et ça effectivement quand on est cartographe, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on va pouvoir aussi les multiplier, ces figures, hein, sans se poser véritablement la question de leur coût. Donc on a l'impression que ces cartes sont un petit peu toutes les mêmes. En fait, c'est pas vrai. Donc sur chacune de ces cartes, il y a un élément qui apparaît. Et effectivement, on peut en publier à peu près autant qu'on veut. Voilà. De même, dernier avantage, figure à la fin de chaque article, un index de ces figures, donc on peut aller les chercher directement. Donc ça me fait penser à une chose que j'ai pas notée, c'est qu'effectivement, on n'a pas non plus de limite sur la taille des articles en ligne. Nous, on a gardé une certaine limite, puisqu'effectivement, pour l'instant, on publie toujours en version papier, mais le jour où on va abandonner le papier, je serais tentée de dire qu'on va peut-être aussi abandonner la taille réduite des articles, puisque finalement, ça n'a plus aucune répercussion financière. On en vient aux inconvénients. Et donc, à ma conclusion, puisque des inconvénients, il n'y en a quasiment pas. Alors, je me suis quand même un petit peu creusé la tête pour vous parler alors de désaccords, mais vraiment très, très relatifs sur les choix de la maquette de revue en ligne. Alors, la maquette, elle est quand même relativement standardisée. Chacun va pouvoir choisir, vous l'avez vu, son bandeau, plutôt la couleur dominante, etc. Ensuite, on va rentrer quand même dans des cases. Là, je vous donne un exemple assez flagrant. Ces deux extraits sont à la même échelle. Or, vous voyez que sur la maquette, le titre de l'article, donc le Kurdistan d'Irak, est écrit dans une police de taille inférieure au titre du premier paragraphe. Voilà. Mais franchement, autre chose, par exemple, le logiciel ne propose pas de justifier les citations. Alors, au début, on s'énerve un peu avec tout ça. On pense qu'on a fait une erreur. Mais non, c'est comme ça. Et donc c'est ce qui s'appelle la feuille de style, hein, qui n'a pas été forcément conçue comme nous on aurait pu le faire. Donc c'est ce que j'ai appelé les lourdeurs très relatives du logiciel Laudel. Le seul inconvénient que je voulais porter à votre réflexion, véritablement, alors on pourrait le prendre comme un avantage. Pour moi, ça reste un inconvénient. Il porte sur ce que j'ai appelé les corrections perpétuelles, c'est-à-dire... On a mis en ligne un article en 2015. Une personne dont on a mis en ligne un article en 2012 va nous dire « Ah, je viens de relire mon article et je me suis rendu compte qu'il manquait un S à personne sur la troisième ligne du quatrième paragraphe. » On est d'accord, c'est très gênant, mais effectivement, on ne peut pas sans arrêt, faire des corrections, même si on a l'impression que c'est simple, ça demande quand même un petit peu de travail. C'est vrai que quand un livre paraît a été imprimé, eh bien, même s'il reste des coquilles, elles restent. Alors, dans un contexte géopolitique un petit peu différent, comme un petit peu compliqué, je dirais, complexe, comme celui du monde arabe, c'est vrai que c'est la même chose, on peut pas reprendre ces articles en disant « je voudrais rajouter un paragraphe ». Si, bien sûr, on peut le faire, techniquement, on peut le faire. Mais voilà, donc les auteurs ont l'impression qu'on va pouvoir le faire beaucoup plus qu'avec le papier. En même temps, un article, s'il a été publié en janvier 2016, eh bien voilà, il est publié en janvier 2016. Donc des inconvénients, Laurence, je suis désolée, mais à part ça. Donc la conclusion de la conclusion, c'est que nous sommes en train d'effectuer des demandes de référencement hein, par rapport à ce que vous disiez, on est en plein dedans. Donc nous aimerions bien, j'ai noté qu'il y avait 135 revues de revues.org qui avaient été classées sur le site de l'HCERS, on aimerait bien être la 136e. Donc on vient de déposer un dossier, vous le voyez, le 29 février, c'est-à-dire avant le 1er mars. Et puis le Cléo, donc qui met en ligne, a fait une demande également d'inscription au DOAJ. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Donc effectivement, je ne suis pas rentrée dans des détails très très techniques, par exemple sur la licence Creative Commons. Je sais que on a décidé en 2012, je ne sais plus laquelle, voilà. Effectivement, on est plus utilisateur que créateur d'une revue. Mais je dois le dire, et sans vouloir faire effectivement une publicité éhontée, on a tout à gagner à faire une demande d'inscription sur revue.org lorsque l'on est une revue de SHS. Voilà. Oui.
Est-ce que là, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autant plus à gagner par rapport à d'autres revues qui sont quand même plus générales, on va dire, que vous traitez effectivement d'un domaine géographique, culturel, qui est quand même restreint.
Alors, on traite ça c'est sûr.
Bon, le nombre de laboratoires sont limités, d'où l'intérêt effectivement d'être hyper connecté, quoi.
Alors, de toute façon,
c'est pas une revue grand public, quoi. Hein.
Oh, si.
On la connaît peu.
Bien sûr.
Je veux dire, c'est très particulier. Parce que c'est lié à ça, quoi.
Bien sûr. On est sur une aire géographique, c'est le propre de notre équipe de recherche aussi, mais depuis la création, effectivement, d'Urbama dans les années, hein, effectivement, on travaille avec un réseau. De toute façon, effectivement, on est un peu trois Pékins et deux tondus ici à Tours, mais ce qui compte pour EMAM, c'est le réseau. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a aussi une culture, on va dire, avec ces gens du réseau, qui, lors de leur visite ici à Tours, nous demandent toujours « Alors, vous avez publié un nouveau cahier d'EMAM, et les cahiers d'Urbama, je me trompe pas, c'est bien les cahiers d'Urbama, ont été créés aussi comme monnaie d'échange, un petit peu, hein, avec tous les centres, les bibliothèques à l'étranger. Ça nous permettait, effectivement, de rentrer dans des échanges. » Bon, petit à petit, les gens prennent l'habitude d'aller consulter en ligne. Et c'est vrai que ça entretient. Et on a, je le disais tout à l'heure, quand même pas mal, moi, je trouve, de demandes de publication d'articles qui émanent de doctorants. Parce que, bon, ils pensent qu'effectivement, ça va bien se passer. Mais on a un comité de lecture, hein, tout pareil. Et oui, bien sûr, c'est pas une revue grand public. C'était une boutade. Mais ça nous permet de garder ce lien avec notre réseau.
Ça ne vaut pas pour n'importe quelle revue SHS. C'est très particulier comme expérience. Je dirais presque que chaque expérience est différente.
Voilà. On a quand même procédé à ce que j'appellerais une ouverture disciplinaire. Hein. Je pense que les cahiers d'Urbama étaient vraiment géographiques. Depuis, on a ouvert aux sociologues, on a ouvert aux politologues, on a ouvert aux historiens, puisqu'on a un numéro entier sur la guerre d'Algérie. Voilà. Hein, on essaye de rayonner un petit peu plus, effectivement.
Peut-être pour réagir à ce moment-là, c'est vrai que le champ n'est pas très concurrentiel. La revue Maghreb Mashrek, qui elle était un peu plus grand public sur l'ère culturelle, n'existe plus. Que l'ancien, on va leur remettre ses cendres.
Et voilà, mais nous on existe toujours.
Il y avait une revue qui émanait du centre de recherche sur le monde arabe de Lyon, centre qui vient de perdre son label CNRS, donc qui va.
Le Grémaud.
Donc effectivement, c'est pas pour se réjouir de l'état de la concurrence, mais il y a vraiment plus qu'une niche, je crois. Créneau à occuper sur la recherche française accompagnée de ses partenaires sur la région aujourd'hui. C'est une vitrine comme une autre.
C'est vrai que Confluence, qui a conservé effectivement les revues papier, de ce fait-là, quand même une visibilité plus importante. Quoi.
Mais après, pour une équipe comme la nôtre, c'est vraiment un coup d'édition.
De la diplomatie française, par exemple, quoi, aussi. Mmh. Donc, la revue papier donne, malgré tout, je pense, au-delà, effectivement, dans ce domaine-là, de la recherche, c'est que le sensu, effectivement, un public qui n'est pas celui strictement des chercheurs.
Oui.
Et aussi, des diplomates.
Mais bon, ce que vous me dites, c'est...
C'est une culture générale, effectivement, à la fois dans le cadre de leur métier en dehors, sur le monde arabe et méditerranéen.
Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, nous on va vers effectivement aussi l'abandon de la publication papier, quoi, qui nous revient effectivement de plus en plus cher. Et bon, à partir du moment où on est parfaitement satisfait des consultations sur revue.org, eh bien on va, comme tous les autres, finir d'éditer. Enfin, on va arrêter l'édition papier sûrement dans les années à venir. Je dis pas demain parce que on a à cœur de. Parce qu'on est tous pareils, hein. On aime bien aussi ce contact avec le papier, mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence.
Par rapport aux exemplaires papier, puisque vous
ne
les vendez encore ?
Non. Non, on les vend pas. En fait, dans les 125 exemplaires, on les distribue en priorité évidemment aux auteurs. Et dans chaque cahier, il y a entre, je dirais, de tête, entre 8 et 10 auteurs. Donc on leur offre 2 exemplaires, donc tu fais le calcul. On offre un exemplaire à chaque personne qui a déposé un résumé de thèse, à chaque personne qui a fait un compte-rendu. Et puis on en offre à la bibliothèque de droit, donc il y a une section géo. On en offre un à la bibliothèque d'histoire. Ça part au dépôt légal, ça part à revue.org qui les recense également, et puis ça part dans les bibliothèques, les centres de doc des centres français à l'étranger. Donc ça, on insiste pour garder effectivement ce lien avec la bibliothèque de l'IRMC à Tunis, le centre Jacques Berck à Rabat, etc. Et puis voilà, c'est fini, hein. Les exemplaires, moi j'en garde 2 dans mon bureau, c'est les 125 exemplaires. Mais on n'a pas du tout une politique commerciale sur les cahiers des hommes. Alors qu'on l'avait sur les fascicules de recherche d'Urbama autrefois. Ça, on les vendait. Je ne sais pas comment ils
ont. Ce qui, quand même, donnait peut-être aussi, justement, là encore, à un public intéressé, mais pas forcément chercheur, justement l'occasion d'avoir accès à une documentation de qualité sur une région du monde. Méconnue ou effectivement qui fait l'objet de voilà d'informations vérités, etc. C'est un peu le problème. Et c'est un peu dommage aussi, je trouve, quoi.
Mais oui, mais comment faire ?
Comment ?
Vous connaissez les budgets des équipes, quoi. Et on n'est pas maison d'édition, on est équipe de recherche. Donc l'édition, ce n'est quand même qu'une part de notre travail. C'est la valorisation de nos... Oui, Roman.
Non, c'est vrai que vous aviez cité Confluence Méditerranée,
oui.
J'étais sur le moment qui a fait le choix inverse, c'est-à-dire le coût de refuser l'argument papier, de vendre
oui.
Et de ne
oui.
pas publier les articles.
Oui.
Mais il y a une différence fondamentale entre nous et eux, c'est que nous pratiquons la relecture anonyme, le peer reviewing, qui permet d'attribuer à l'article un statut d'article publié dans une revue à comité de lecture. Ce que ne fait pas du tout Confluence Méditerranée, qui publie en fonction de la décision du directeur de numéro dans tel ou tel domaine. Donc, ce qui leur permet quand même d'avoir effectivement une porte de frappe un peu plus importante que la nôtre. Mais les articles des auteurs qui publient chez nous ne rangent pas leur article dans la même catégorie que ceux de Confluence Méditerranée. Et je précise cela, car nous avons dans nos numéros beaucoup d'articles de collègues qui sont rattachés dans des institutions étrangères, dans des universités, donc des pays partenaires, et pour qui c'est souvent une condition sine qua non pour accéder à des postes. C'est-à-dire, de plus en plus, dans leur propre pays, on leur demande une publication dans une revue à comité de lecture, donc avec la double relecture anonyme. Leur offrir ça dans une démarche de coopération scientifique, ça me semble aussi être vraiment une plus-value. Ce que, encore une fois, ne peut pas apporter Confluence Méditerranée. Mais ce sont des choix qui sont... qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas à ranger sur le même plan.
Juste une question, qu'est-ce qu'il en est pour l'archivage pérenne du coup, de la revue sous forme numérique? Est-ce que vous avez discuté de ça? Je ne connais pas du tout, c'est vraiment une question. Simplement savoir ce que propose revue.org, on imagine, dans 20 ans, dans 30 ans...
Je pense que c'est une très bonne question. Pour l'instant, on ne se l'est pas... tellement posé non plus, j'ai pas souvenir qu'on en ait vraiment débattu, que c'était dans la négociation. On s'inquiète pas beaucoup pour l'instant. Bon, alors, ensuite nous sommes effectivement à l'origine hein, de la mise en ligne, donc peut-être que la conservation elle existera toujours de notre côté, dans nos propres ordinateurs. En ce qui concerne la mise en ligne, je ne sais pas, mais c'est effectivement une question qu'on pourrait se poser, qu'on devrait se poser.
Ça pourrait être mis justement, enfin, sûr la partie inconvénient. Quid de la conservation et de l'avenir, effectivement, de cette publication?
Elle existe peut-être, je ne sais pas.
Elle existe.
Revue.org, archive aussi.
Bah voilà. On est tranquille.
Je pense que c'est fait parce que j'ai basé des sur le CNES. Ils s'engagent en fait.
Ouais. Mais ils sont engagés pour une durée indéterminée. Non,
ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est qu'ils archivent les numéros qui
J'avais une autre question aussi. Vous parliez donc à l'origine des articles, des séminaires, souvent des conférences, etc. Est-ce que ces articles sont déposés également justement sur la plateforme HAL?
Ah oui, systématiquement. D'accord. Systématiquement. Puisque là, aujourd'hui, on peut plus faire autrement, effectivement. Et ce sont.
On
n'est pas obligé, mais je pense que c'est dans l'intérêt. Par exemple, en l'occurrence, quand nos collègues sont coordinateurs d'un numéro, c'est tout à leur intérêt, enfin, c'est dans leur intérêt, évidemment, de le préciser sur HAL et donc de faire le lien et donc de référencer. Voilà.
Vous avez une démarche, vous, en tant qu'éditeur de la revue, vous les incitez à le faire ou pas?
Alors, quand tu dis ça, oui, moi je pense que, en ce qui concerne les auteurs français, je crois que c'est quand même une espèce de choses qui est devenu tellement habituel. Maintenant, on publie et puis systématiquement on dépose sur HAL parce qu'on sait très bien que les équipes sont évaluées aussi en fonction du nombre de dépôts. Je pense que du côté français, ça c'est rentré dans les mœurs, quoi. Enfin, alors dans la nôtre, et puis bon, parce que effectivement, il y a de la concurrence aussi entre les équipes, il y a de la concurrence entre les laboratoires, donc il faut montrer que on a publié. Donc je pense que Roman ne me contredira pas. En tant qu'auteur français, ça se fait automatiquement. C'est vrai que on devrait peut-être davantage faire de publicité pour HAL auprès de nos auteurs d'articles, enfin de nos auteurs étrangers.
Je voudrais peut-être une petite ombre au tableau, c'est que bien souvent, quand il s'agit effectivement de séminaires, les auteurs publient la version auteur de leur communication sur HAL, mais la transformation de cette communication en article, relié anonymement par de pairs, etc., prenant du temps, parfois les auteurs ne reviennent pas sur leur premier dépôt quand la publication est sortie. Alors il y a parfois donc deux versions. Non, c'est pas grave, mais on voit parfois que sont citées la version HAL par d'autres collègues plutôt que la version évaluée.
Ouais, évaluée, nettoyée, corrigée, réécrite.
C'est un léger biais.
Mais c'est vrai hein, qu'on devrait être plus rigoureux sur l'inscription des effectivement sur HAL de tous les auteurs d'articles, je pense que. Mais je vous l'ai dit, on est un petit peu enfin je veux pas dire qu'on est des artisans de revue.org, mais effectivement voilà, Roman a sa charge de cours, on a tous voilà notre métier par ailleurs, et la partie édition, même si on a à cœur d'y consacrer du temps, et donc il y a un comité de rédaction qui est vraiment présent, qui se réunit et qui on passe un temps infini à gérer cette revue. Je crois qu'on est au bout, voilà, un petit peu de ce qu'on peut faire, parce que ça. Et je parle pas aussi de la diffusion. La cartographie, par exemple, je me permets d'y revenir. Moi, je refais systématiquement toutes les cartes. Donc, on a beaucoup insisté sur cet aspect pour l'inscription à la liste de revues de l'HCERS.
Et ça nous intéresse aussi, une fois la décision prise, le cheminement, comment ça fonctionne.
Ah, bah, le dossier, il est pas tout mince, hein. Il faut vraiment, il faut remplir les cases, et puis après, il faut faire un argumentaire. Voilà, je pense que le nôtre il fait 2 pages, mais on l'a bien réfléchi. Donc il faut effectuer. On a aussi du coup on a refait notre comité scientifique. On l'a ouvert encore à d'autres disciplines. On l'a ouvert à des personnes peut-être un peu plus jeunes. On l'a renouvelé aussi. Enfin, on a essayé de montrer que voilà, on était actifs. Ben, on vous donnera le résultat quand on l'aura, surtout s'il est positif.
Mais même s'il ne l'est
pas, oui, bien sûr.
Je trouve qu'on a besoin de savoir en fait ce qui se passe au niveau de ces décisions qui sont quand même très controversées, qui créent également beaucoup de débats avec des interrogations justement sur ces évaluations, sur qui fait cette évaluation, quels sont les critères qui sont pris en compte. Et c'est vrai que je trouve que...
Et pour nous, c'est un temps qu'on passe sur ces dossiers infinis, quoi. Mmh. Vraiment, hein. C'est lourd, mais... Plus on est sur ces listes, et mieux c'est pour tout le monde, et donc on fait l'effort.
Après,
mais...
c'est le tremplin vers d'autres listes de référencement, Erie et compagnie. Donc
ce sont des réactions en chaîne, c'est vrai. Ouais. Mais il faut vraiment le voir comme effectivement des démarches qui sont initiées par des gens dont c'est pas du tout le métier, quoi. Voilà, des enseignants-chercheurs. Mais qui prennent à bras le corps effectivement le développement, la diffusion de cette revue sur leur temps de travail, évidemment, hein, mais c'est lourd quand même, je dois le dire, comme inconvénient peut-être, parce qu'on n'est pas des pros, quoi, de l'édition.
C'est lourd de la même façon que du papier. C'est pas la même. Est-ce que le numérique te sent plus lourd ou est-ce que c'est le fait de publier ?
Au contraire, je dirais que le numérique, pour moi qui met en ligne, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau. Une fois que les textes ont été évalués, qu'ils ont été relus trois fois, qu'ils ont été nettoyés, corrigés, les mettre en ligne et les voir apparaître dans la seconde qui suit sur Internet, ça, c'est d'abord, c'est un jeu, parce que bon, on fait du stylage, mais ça va pas très loin. Et effectivement, on a le résultat immédiat, quoi. Alors qu'une revue imprimée, on la dépose à l'imprimeur, qui l'imprimera quand il aura le temps, parce qu'on n'est pas ses clients les plus importants, etc. Donc, c'est pas le numérique, effectivement, qui... Je suis d'accord, Laurent. C'est pas le numérique qui nous rajoute... Qui nous rajoute du travail, c'est l'édition sur une petite équipe comme la nôtre. Enfin, tu connais sa taille par rapport à d'autres. Et effectivement, on n'a pas une personne non plus qui est affectée à cette tâche. Donc, il y a des revues, hein, Roman. Tu me disais Maghreb Mashrek. Il y avait une personne qui ne s'occupait que de ça.
Un secrétaire de rédaction.
Secrétaire de rédaction qui faisait tout, quoi. Chez nous, tout le monde fait un peu tout. Donc si vous voulez bien aller tous les soirs avant de vous coucher une fois sur le site des Cahiers des Mâmes pour faire monter nos chiffres, on comprendra pas pourquoi le 11 mars 2016 il y a eu un pic comme ça. On verra demain. Mais voilà, ça nous fera un peu d'eau à notre moule. Hein. D'accord Jean-Philippe, tu penses avant de te coucher tous les soirs? Tu peux faire cliquer ton fils, il n'y a pas de limite d'âge. Ben merci à vous.
Merci beaucoup.